votre Bible dans 1 Pierre, continuons notre étude de cette épître 1 Pierre, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 18, encore une fois, 1 Pierre chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est allé à la droite de Dieu depuis qu'il est, allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Allons prier. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole et nous te prions que ton Esprit nous guide, illumine nos cœurs, nos pensées, pour que nous saisissions ta parole et aussi qu'elle incline nos cœurs à l'obéissance à ta parole, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors nous allons considérer le chapitre 4, versets 1 et 2 principalement, mais on va les relire encore 1 à 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert, et cela vient un peu en lien avec ce que l'apôtre Pierre a commencé au chapitre 3, 18. Christ aussi a souffert, et après au chapitre 4, verset 1, ainsi donc, Christ ayant souffert. Donc, il dit des choses à propos de Christ qui a souffert. Nous avons considéré ça déjà. Et puis maintenant, il tire une conclusion, on pourrait dire pratique, pour le croyant. Jusque-là, il expliquait ce qui s'est passé par le fait que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Et maintenant, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous, et là c'est l'exhortation principale du passage, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre, sur dans la chair. Alors la grande exhortation, je le dis du texte, est que pour vivre une vie sainte, puisque c'est ce à quoi l'apôtre Pierre appelle ses lecteurs et nous appelle, eh bien il faut s'armer de la pensée de la souffrance. Ce qu'il dit. On pourrait penser à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre une vie sainte? On pourrait penser, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. Et ce seraient des choses certainement justes que nous dirions. Mais ici, dans l'exhortation que Pierre donne, ici, sous l'inspiration de l'Esprit, il dit que pour vivre une vie sainte, Au milieu de la génération dans laquelle on est, il y a ces lecteurs, eh bien, pour avoir une bonne conduite au milieu des païens qui sont moqueurs et calomniateurs, il faut s'armer de la pensée de souffrir. Et donc, le titre du message ce matin, c'est « S'armer pour la souffrance ». S'armer pour la souffrance. Alors, nous allons considérer, premièrement, ce que dit Pierre ici, eh bien, il montre que le chrétien est appelé à une conformité à Christ qui implique la souffrance. Le chrétien est appelé à une conformité de vie avec Christ qui implique la souffrance. Verset 1, il dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Donc, c'est une conformité à Christ qu'il appelle ici, n'est-ce pas? Et il montre que le croyant, la vie du croyant, en tout cas, n'est pas décorrélée, n'est pas dissociée de la vie de Christ. Ce que Christ a été, le croyant est appelé à l'être aussi. Il dit « vous aussi ». Ça, c'est important, le « vous aussi » ici. Il dit « Christ, il a fait des choses, il a été d'une manière, vous aussi ». Et le croyant, donc, ne peut pas et ne doit pas penser sa vie autrement que dans la conformité à la vie de Christ. Le grand projet de Dieu, rappelons-nous, l'apôtre Paul le donne en Romains chapitre 8, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi ? Semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre eux, les frères. Alors, on peut penser cette conformité en termes de perfection finale. Oui, un jour, on sera parfait. Quand le Seigneur reviendra, on sera transformé, on quittera ce corps, on aura un corps glorieux. Et donc, à ce moment, on sera rendu semblable à l'image du Fils de Dieu. Mais l'apôtre Pierre parle de cette conformité en termes de vie présente. Pas seulement en termes de vie future. Et la vie présente du chrétien doit tendre vers cette conformité à Jésus-Christ. La marche sur la terre définie de Christ, définit le cadre, on pourrait dire, de marche sur la terre du croyant. Comment Christ a vécu sur la terre ? Eh bien, définit aussi comment le croyant doit vivre sur la terre. Et l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, il dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il demeure en Christ, eh bien doit marcher aussi comme il a lui-même marché. » Pourtant, donc, le chrétien doit être au courant de comment Christ a marché. Parce qu'il est appelé à marcher aussi comme Christ a marché. Le chrétien est appelé à considérer comment Christ a souffert, parce qu'il est appelé aussi à s'armer de la même pensée de la souffrance. C'est ce que Pierre dit ici. Donc, il dit que le chrétien est appelé à une conformité, ça reprend le titre, que je donne à Christ, qui implique aussi la souffrance. La conformité à Christ dans la manière de considérer la souffrance. Ce que Pierre dit ici, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Le chrétien doit armer sa pensée, il doit adopter la pensée de Christ, les souffrances dans la chair comme Christ, il doit les accepter comme Christ les a lui-même acceptées. La disposition de Christ doit être sa disposition d'esprit vis-à-vis de la souffrance. Et il doit être animé de la même mentalité. Un peu comme Paul disait dans Philippiens, vous vous rappelez, « Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ ». Il parle de cela pour parler de l'humilité de Christ. Et donc, la conformité ici que Pierre demande, enfin que la parole de Dieu nous demande à travers l'apôtre Pierre ici, ça n'est pas simplement le fait de vivre les mêmes expériences douloureuses. Ce n'est pas une recopie des expériences douloureuses. Christ a souffert, on lui a percé les mains, donc j'aurai aussi les mains percées. D'accord ? Ça n'est pas ça que ça veut dire. Donc, ça n'est pas d'avoir les mêmes intensités douloureuses dans la souffrance. Mais c'est le fait d'avoir la même attitude, la même perception, la même vision des souffrances, des épreuves que l'on subit à cause de Christ. C'est-à-dire appréhender la souffrance comme Christ l'appréhende, d'une manière juste, d'une manière biblique. Et Pierre dit, vous êtes appelés à vous armer de cette mentalité qui a animé Christ face à la souffrance. Qu'a-t-il fait face à la souffrance? Eh bien, vous devez être pareil face à la souffrance. Et c'est ce que Christ lui-même d'ailleurs a dit à ses disciples lorsqu'il leur a lavé les pieds, quelque part. Il dit, si donc je vous ai, en Jean chapitre 13, verset 16, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi, vous voyez, j'aime bien ce mot, à chaque fois il y a le « aussi » ici, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il est clair ici que Jésus ne demande pas à ses disciples simplement de recopier le geste, d'accord ? Du lavage des pieds. Ce n'est pas juste « faites ça » qu'il dit. D'accord ? Mais ce qu'il demande ici, c'est d'avoir le sentiment qu'il a eu. Lui, le maître, il a lavé les pieds des disciples. Ça veut dire quoi ? Qu'il s'est humilié. Il a montré de l'humilité dans son attitude envers ses serviteurs, ses disciples. Il a manifesté de l'amour envers eux. Il dit, moi le maître, je l'ai fait. Il dit, et vous aussi, vous devez le faire. Mais pas simplement le faire par le geste, le faire avec la même disposition d'esprit, avec la même humilité, avec le même sentiment, la même profondeur d'amour que j'ai eu pour vous ici. La même motivation. Donc ce que Dieu cherche, Christ cherche ici, c'est la motivation qui conduit au geste ici. Et Pierre dit la même chose. Quelle motivation a animé Christ face à la souffrance? Eh bien, vous êtes appelés à vous armer de cette même motivation. Et l'apôtre Pierre avait déjà parlé des souffrances de Christ et du lien que cela, de l'impact que cela devrait avoir dans la vie du croyant. Regardez en 1 Pierre chapitre 2 et au verset 21 à 23. 1 Pierre 2, 21 à 23, il dit, déjà au verset juste avant, il dit que, deuxième partie du verset 20, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Ce qu'il dit. Et il ajoute, « Et c'est à cela, verset 21, 1 Pierre 2, verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et il dit ici, verset 22, « Lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et donc, la trace à suivre ici, ça n'est pas simplement la souffrance, parce que Pierre aurait pu dire ici. C'est à cela que vous avez été appelés. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, point. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit, il vous laisse un exemple afin que vous suiviez ses traces, et après il ajoute, lui qui va montrer quelle était la disposition de Christ face à la souffrance. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, dans lequel, la bouche duquel il n'y a point eu de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Face à la souffrance, il n'a pas cherché à se venger. D'accord ? Voilà l'attitude qu'il a animée. Et face à la souffrance, il n'a pas cherché à se venger, mais il a mis sa confiance dans celui qui juge justement. D'accord ? Voilà donc ce que qui anime un Christ dans, face à la souffrance. Le refus de la vengeance, la confiance en Dieu. Et donc Pierre dit, vous êtes appelés aussi à cela. Le refus de la vengeance, la confiance en Dieu face à la souffrance. Et après, il expliquera, face à la souffrance envers le patron, face à la souffrance dans un couple où l'un ne connaît pas le Seigneur, etc., etc. Il donnera quelques exemples par la suite à ses lecteurs. Et donc Jésus avait, lui, la puissance de se défendre. Il aurait pu dire un mot, juste un mot. Il ne l'a pas fait. Mais il a placé sa confiance en Dieu. Il a abandonné la situation entre les mains de Dieu, entre celui qui juge justement. Et en parlant de persécution, le Seigneur Jésus lui-même, il dit ceci, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite ». Il dit ça en Jean 15, où il dit que vous allez souffrir, etc. Il dit ça à ses disciples. Et il dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Voilà encore notre mot. Il dit « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur est appelé à avoir une vie conforme à celle de son maître. Qu'il y a un lien étroit entre le croyant et son Seigneur, entre le disciple et son maître. Qu'il y a une conformité telle que l'on considère le disciple comme le maître. Si on a considéré le maître indigne, on considérera le disciple aussi indigne. C'est ce que Jésus dit ici. Donc le disciple ne doit pas s'attendre à avoir plus de confort que n'en a eu son maître. Il ne doit pas s'attendre à être aimé là où son maître a été haï. Il ne doit pas non plus chercher à emprunter un autre chemin que celui que son maître a emprunté. Donc si son maître a dû emprunter le chemin de la souffrance, le disciple devra aussi emprunter le chemin de la souffrance. Et cette pensée, dit Pierre, doit animer le chrétien. Elle doit agir comme une arme dans sa pensée, une arme qu'il va brandir lorsque les tentations vont arriver, la tentation naturelle qui consiste à lui faire croire qu'il est fils du roi des rois. Et comme j'ai entendu dans une chanson, nous sommes des princes et des princesses. D'accord ? Et puis voilà, aucun mal ne peut nous atteindre, on a droit à toutes choses, on est fils et filles du roi des rois, on a des droits. On exige d'être traité mieux qu'on est traité parce qu'on est enfant, fille ou fils du Seigneur Tout-Puissant. Mais ça, ce n'est pas le langage que le chrétien est amené à avoir. Le langage qu'il est amené à avoir, c'est que Christ a souffert dans la chair, moi aussi. Je dois m'armer de la même pensée. Je dois marcher sur le même chemin. Je dois accepter de passer par là où il est passé avec la même attitude. Je dois accepter d'être rejeté, je dois accepter d'être moqué. Parce que je dois m'armer. Je dois m'armer de la même pensée. Ça se joue ici. Il faut qu'on le sache, Pierre dit. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous vous prépariez à ça. D'accord ? Que vous mettiez dans votre pensée que vous devez apprendre à développer les sentiments qui étaient en Christ pour avoir ces sentiments face à la souffrance. Donc ce n'est pas le fait d'avoir, je le dis encore une fois, d'avoir les mêmes expériences douloureuses, mais c'est le fait d'avoir le même sentiment, la même mentalité face aux expériences douloureuses, de manière à pouvoir les accepter, comme il dit ici, si c'est la volonté de Dieu. Ça c'est le premier point que je voulais souligner, c'est que le chrétien est appelé donc à une conformité à Christ qui implique la souffrance ici. Mais la deuxième chose qu'on pourrait souligner dans ce que Pierre dit concernant le fait de s'armer pour la souffrance, c'est que l'acceptation de la souffrance pour ce qui est bien, pour le bien, indique une rupture d'avec le péché. L'acceptation de la souffrance pour ce qui est bien indique une rupture d'avec le péché. Je reprends 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. L'apôtre Pierre met en relation ici, on pourrait dire, la souffrance dans la chair et la sainteté, la fin du péché, la vie de sainteté. Il relie la souffrance dans la chair et la sainteté, mais d'une manière qui est assez difficile à interpréter ici. Il dit « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché ». Fini avec le péché, ça veut dire cesser, achever, c'est fini. C'est quelque chose qui est relativement radical. Alors que la phrase, elle indique en fait une situation qui existe dans le présent, mais qui a été déterminée par une action qui s'est produite dans le passé. Hein. Celui qui a souffert, aujourd'hui, en a fini avec le péché. Alors la question qui se pose est de savoir qui est décrit par le « celui qui a souffert » dans ce verset. Certains disent qu'il s'agit de Christ qui a souffert et puis qui en a fini avec le péché. C'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire qu'il avait péché auparavant, mais ça veut dire qu'il a fini de traiter la question du péché de manière radicale par sa mort et sa résurrection. Maintenant, la fin du chapitre 3 dit qu'il est allé au ciel, d'accord, et qu'il a autorité sur toute chose. Et donc, il en a fini avec la question du péché. Elle a été définitivement et parfaitement traitée. Mais en même temps, c'est une exhortation, on peut le voir ici, que Pierre donne aux croyants ici. Le verset 2 dit « Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Donc, on peut aussi voir que ce verset concerne celui qui a souffert, concerne aussi le croyant. Et c'est un peu le sens dans lequel je penche aussi, parce que ce verset dit, voilà, il parle des chrétiens qui doivent vivre encore selon la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que Pierre veut souligner ici? Qu'est-ce qu'il veut dire par celui qui a souffert en a fini avec le péché? Notons plusieurs choses. D'abord, Pierre ne veut pas dire que la souffrance possède en elle-même un pouvoir, le pouvoir de produire la sainteté. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on devient meilleur ou qu'on se rapproche davantage de Dieu. C'est une mauvaise théologie si on croit ça, que la souffrance permet de devenir meilleur, permet de bonifier. Alors il y a certaines personnes pour lesquelles ça va les conduire vers Christ, pour d'autres, la souffrance va les éloigner de Christ. Rappelez-vous du brigand sur la croix, les deux, ils étaient en proie à la souffrance. Il y en a un qui se tourne vers Christ et l'autre qui continue dans sa dureté, n'est-ce pas? Alors qu'il souffrait. Et donc la souffrance n'est pas forcément quelque chose qui... En elle-même, la souffrance n'a pas de vertu purificatrice qui conduit directement à la sainteté. On peut penser un passage dans Apocalypse. Vous savez, lorsque Apocalypse parle de ces anges qui versent les sept coupes de la colère de Dieu, hein, Apocalypse chapitre 16, on lit ceci dans Apocalypse chapitre 16, versets 10 et 11. Écoutez, il dit « Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient Dieu, le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Vous voyez ici, le texte décrit ici des hommes qui sont en proie à la douleur, mais une douleur terrible. Ils se mordent la langue tellement ils souffrent ici. Mais cette souffrance ne les pousse pas vers Dieu. Cette souffrance ne les pousse pas à se repentir. Au contraire, ils blasphèment encore davantage Dieu. Et ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Donc on peut dire clairement que la souffrance en elle-même ne conduit comme ça personne à Christ. Donc Pierre ne veut pas dire qu'il suffit de souffrir, que tous ceux qui souffrent, eh bien, voilà, ils ne pécheront plus. Ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Deuxièmement, on peut noter que Pierre ne parle pas des souffrances en général, mais de la souffrance pour le bien. Ceux qui souffrent pour le bien. Hein. On l'a lu au chapitre 3, hein, verset 20, il dit « Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire y a-t-il à souffrir lorsque vous avez fait le mal? Si vous souffrez quand vous avez fait le mal, c'est normal, dit-il. » Mais il dit ici, Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. Donc ici, il parle d'une souffrance en particulier. Quand il dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, il parle premièrement de la souffrance que l'on subit lorsque l'on fait le bien en obéissant à la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il ne parle pas de la souffrance qui est due à la maladie, ou de la souffrance qui est due à la vieillesse, ou de la souffrance qui est due à l'injustice qui existe dans le monde et qui est le lot de tous les hommes. Il parle vraiment du fait de souffrir à cause de Christ. Souffrir parce qu'à cause de Christ, on va faire ce qui est bien. C'est ce dont il parle ici. Et même quand il parle de cela, il ne dit pas que cette souffrance conduit à en elle-même la vertu de vous sauver ou d'éliminer le péché. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Troisièmement aussi, on pourrait dire que Pierre ne veut pas dire que le chrétien qui souffre ne pêche absolument plus. On sait bien dans l'Écriture que les hommes pêchent, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a personne qui ne pêche point. L'apôtre Jean dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur, etc. Et Jacques dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc personne ne peut dire, même un chrétien ne peut dire, je ne pêche plus ici. D'accord. Donc ce n'est pas ce que Pierre veut dire. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici quand il dit que celui qui a souffert en a fini avec le péché? Probablement, je ne peux pas dire de manière absolue, mais probablement ceci, c'est que le choix de faire ce qui est bien devant Dieu, sachant que cela va conduire à la souffrance dans la chair, le choix de faire cela, plutôt que de choisir la voie confortable, celle qui n'est pas droite, il dit, mais le choix de faire le bien, sachant que la souffrance va en résulter, indique que vous avez rompu avec le péché. Quand le désir de faire, on pourrait dire, la volonté de Dieu vous pousse à choisir le chemin du bien, malgré la souffrance que vous savez devoir subir par ce choix-là, eh bien, vous indiquez par là une rupture d'avec le péché, d'avec la facilité. Et dans ce sens, on pourrait dire, le fait que vous souffrez est un indicateur de cette rupture d'avec le péché. Alors, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est la chose, c'est ce que la souffrance indique. Vous voyez ici, c'est ce que Pierre dit. Par ce choix, le chrétien indique qu'il préfère la souffrance pour Christ plutôt que le confort que pourrait lui procurer le péché. Un peu comme Moïse, dont il est question en hébreu, vous vous rappelez de Moïse, hébreu 11, 25, il dit que Moïse aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, d'accord, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il aurait pu rester dans le palais, profiter du confort du palais, il avait tout à sa disposition. Mais la Bible dit qu'il a préféré la souffrance qui consiste à s'associer au peuple de Dieu plutôt que la non-souffrance, le confort qui consiste à jouir du péché. Et il a montré par ce choix qu'il préférait suivre Dieu plutôt que le péché. Et donc la souffrance qu'il a subie est un indicateur de cette rupture d'avec le péché. Comprends ça? C'est la même chose que Pierre dit ici. Donc il dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ce n'est donc pas la souffrance dans la chair en elle-même qui cause la rupture d'avec le péché, mais c'est la rupture d'avec le péché, d'accord, qui se manifeste par le choix de faire ce qui est bien, même si cela va conduire à la souffrance dans la chair. Et donc, lorsque cela conduit, un tel choix conduit à la souffrance dans la chair, la souffrance dans la chair est l'indicateur qu'on a rompu avec le péché. Et peut-être que quelques lecteurs de Pierre cherchaient à éviter la souffrance. Peut-être cherchait-il une manière plus confortable de vivre la vie chrétienne. Et Pierre leur dit, non, la souffrance que vous subissez parce que vous avez choisi de faire le bien indique quelque chose qui est important, indique que vous avez rompu pour des situations qui conduisent, avec des situations qui conduisent au péché, ici. Celui dont le but est de vivre pour Christ, c'est ce que ça vous, on le dit d'une autre manière, celui dont le but est de vivre pour Christ, dont le but est de ne pas pécher, acceptera la souffrance, car elle sera la voie qui permet d'éviter le péché. D'accord ? Mais celui qui choisira de faire ce qui lui convient, ce qui est le plus facile, il cherchera toujours à éviter la souffrance. D'accord ? Parce qu'il cherchera toujours ce qui est le plus confortable. Il sera dirigé non pas par la volonté de faire ce que Dieu veut, de faire le bien à cause de sa foi, mais de chercher la voie la plus facile. Christ nous dit la parole, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, volontairement. Il a souffert la croix, en pensant à la joie qui lui était réservée. Et donc la souffrance acceptée dans cette disposition de Christ, disposition d'esprit de Christ, met en évidence la réalité de la rupture d'avec le péché. C'est pour cela qu'on peut dire que ici le choix de l'acceptation de la souffrance pour ce qui est bien indique une rupture d'avec le péché. Et puis troisièmement, dans le verset 2, l'apôtre Pierre dit ici, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il dit que la force, en fait, qui régit la vie chrétienne, c'est la volonté de Dieu et non les désirs des hommes. La force qui régit vraiment, qui dirige, qui gouverne, on pourrait dire, la vie chrétienne, c'est la volonté de Dieu et non le désir des hommes. Ce qu'il dit ici, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. C'est comme ça que vous avez vécu jusque-là, mais selon la volonté de Dieu. On ne peut rien faire pour modifier le passé. On ne peut rien faire pour modifier le passé. Mais le temps qui reste à vivre dans la chair doit être considéré avec soin. Je ne peux considérer que ce qui reste à vivre, que le reste à vivre ici. Et Pierre parle du reste à vivre. Vous voyez ça ici, il dit pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pierre avait déjà exhorté les chrétiens en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Vous vous rappelez au début, chapitre 2, verset 21, il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Vous êtes des passagers, vous avez peu de temps à passer sur cette terre. Et puis au chapitre 1 et au verset 17, il leur demandait de se comporter avec crainte pendant le temps de leur séjour sur la terre. Encore une fois, il est dans ce temps qu'il leur reste. Et puis maintenant, il parle ici du temps qu'il reste à vivre dans la chair. Et il les exhorte à vivre. Il dit que quand on supporte la souffrance avec la mentalité que Christ avait, qu'on s'arme de cela, cela permet de vivre dans le temps qui reste à vivre en étant gouverné par la volonté de Dieu et non par la convoitise des hommes. Le temps qui reste à vivre dans la chair, de quelle longueur est-il, ce temps-là? Si vous avez un certain âge, vous répondrez, je crois qu'il est plus très long. Si vous êtes plus jeune, vous serez tenté de répondre, je crois qu'il est assez long. Je n'ai pas fini mes études, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas acheté une maison, je n'ai pas eu des enfants, J'ai pas eu de petits-enfants, donc je pense que ce temps est assez, pourrait être assez long. Si vous êtes sportif en bonne santé ou malade en mauvaise santé, vous n'aurez pas la même réponse à cette question-là. Mais en fait, en réalité, personne ne sait quelle est la longueur de ce reste à vivre. Personne. Et Pierre dit, même si vous ne savez pas, en substance, quelle est la longueur de ce reste à vivre, vous devez vous soucier de la qualité de ce reste à vivre. Vous devez chercher à vivre dans ce temps qui vous reste, non plus comme vous l'avez fait jusque-là, il dit, non plus longtemps comme vous l'avez fait auparavant, c'est-à-dire en marchant selon la convoitise des hommes, mais dorénavant en vivant selon la volonté de Dieu. Et la souffrance peut faire partie de la volonté de Dieu. Il le dit au verset 19, chapitre 4, verset 19. Il dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. La souffrance peut être selon la volonté de Dieu. Et Pierre dit ici, eh bien, si vous l'acceptez comme Christ l'accepte, cela vous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Pierre ne demande pas donc de spéculer ici sur la longueur du temps qui reste à vivre, mais de s'assurer qu'elle soit vécue de la bonne manière. Régie, gouvernée, non par mes convoitises, ce qui est confortable, ce qui me permettra d'éviter la souffrance, ce qui répond à mes aspirations, ce qui est communément admis dans le monde, mais de le vivre par la volonté de Dieu, même si cette volonté passe par la souffrance. Donc peu importe la longueur, le mieux qu'on puisse faire, la décision la plus sage qu'on puisse prendre, est de chercher vraiment à vivre selon la volonté de Dieu. C'est exactement ce que Moïse dit dans son psaume où il parle de la brièveté de la vie, psaume 90. Où il parle de l'éternité de Dieu, de la fragilité de l'homme, du fait que l'on meurt à cause, on a partagé ça l'autre soir dans la veillée pour le frère Alexandre qui est parti, dans la brièveté de cette vie. La mort, c'est pas la conséquence de la maladie, c'est pas la conséquence de la vieillesse. La mort, c'est un jugement, un acte judiciaire que Dieu a posé. On meurt à cause de la colère de Dieu. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Quand il parle de tout ça, il dit au verset 12 du psaume 90, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi faire? Pour savoir combien ils sont longs? Non, il dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. D'accord? En général, quand on parle de reste, c'est jamais beaucoup. Chez nous, quand on mange les restes, c'est les restes. Hein. Le terme reste, quelque part, contient l'idée qu'il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas? Et quand l'apôtre dit, pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair, je crois que tous, on doit se dire qu'il n'est peut-être pas long. Et puis, de toute façon, puisque je n'en connais pas la longueur, il est court. Hein. Et donc, je dois m'appliquer, demander à Dieu la sagesse pour que j'applique mon cœur à vivre comme Dieu le commande. Le demande ici. Donc la force qui régit la vie chrétienne est la volonté de Dieu et non le désir des hommes. Il sera vécu comme cela si nous acceptons, si nous nous armons avec cette pensée, la même pensée qui était en Christ face à la souffrance. Je termine avec, chers frères et sœurs, quelques conclusions ici. Premièrement, dans ce passage, nous pouvons voir que la souffrance de Christ dans la chair devrait façonner toute la vie du chrétien sur la terre. Donc, nous devrions vraiment méditer ces souffrances, non pas comme des spectateurs, non pas comme des gens qui courent au cinéma pour voir du sang qui gicle sur les écrans et puis que de la souffrance cinématographique, si j'ose dire, mais de considérer vraiment l'attitude de Christ. Cette attitude dans la souffrance doit façonner notre manière de considérer la souffrance. Nos choix, nos frustrations, parfois nos révoltes même, découlent de la méconnaissance de cette vérité-là. L'évangile de prospérité pousse sur le ferment de de la méconnaissance des implications qu'il y a entre les souffrances de Christ et la vie du croyant. Comprenez ça? Lorsque Pierre veut encourager les chrétiens, il dit « Christ a souffert. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Il y a un lien entre les souffrances de Christ et les vôtres. Et même, Christ veut vous laisser un exemple par son attitude face à la souffrance, pour vous montrer comment, en tant que chrétien, vous devez vivre. Vous devez vivre sur la terre, ici. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit cela à ses disciples. Il dit, il voit une grande foule qu'il suit, et qui faisait, la Bible dit qu'il faisait route avec Jésus en Luc 14, verset 25, et Jésus se retourne. Et puis, on penserait qu'il pourrait le dire, c'est bien, venez, je vous donnerai à manger, vous aurez tout ce qu'il faut. Si vous me suivez, vous n'aurez plus jamais de soucis, plus jamais de problèmes. Vous savez ce qu'il leur dit quand il se retourne? Écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, s'il ne hait pas sa mère, s'il ne hait pas sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et Jésus indique clairement que le suivre implique la souffrance. Le suivre vraiment implique la souffrance. L'apôtre Paul disait, quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. D'accord? Il dit que le suivre implique la souffrance. Et je vous cite ce que l'évêque anglican Dicéra dit à propos de ce texte. Il dit, cela coûte quelque chose d'être un vrai chrétien, selon la norme de la Bible. Il y a des ennemis à vaincre, des batailles à mener, des sacrifices à faire, une Égypte à abandonner, un désert à traverser, une croix à porter, une course à courir. Dit que la conversion n'est pas de mettre une personne dans un fauteuil et de l'emmener facilement au ciel. La conversion, c'est le début d'un conflit puissant dans lequel il en coûte beaucoup pour remporter la victoire. La victoire sur les relations familiales, comme Jésus le dit ici, la victoire sur les ambitions, la victoire sur beaucoup de choses, la victoire sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, naturellement, nous voulons le confort, n'est-ce pas? Nous voulons éviter la souffrance à tout prix. Et on a développé la médecine, des méthodes pour enrayer la souffrance. On connaît des méthodes pour accoucher sans souffrance. On lutte. Notre nature lutte pour ne pas souffrir. Mais le chrétien doit savoir que la souffrance de Christ dans la chair doit, et son attitude doit façonner vraiment sa manière d'appréhender sa vie sur la terre et d'accepter la souffrance lorsque, à cause de la foi, pas la souffrance à cause du mal, du péché que l'on commet, mais à cause de la foi, lorsqu'elle vient à cause de la foi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que les choix opérés dans la vie chrétienne ne doivent pas être sur la base de ce qui me plaît ou de ce qui se fait le plus communément ou de ce qui est le plus confortable, mais il doit être opéré sur la base de ce qui est droit et bien devant Dieu, même si cela doit générer la souffrance. Lorsqu'il y a des choix devant nous, c'est ce qu'on pourrait tirer comme conclusion de ce que Pierre dit, ce qui est que le chrétien doit faire, ce n'est pas de prendre le plus facile, de prendre le plus naturel, de prendre le plus habituel, mais ce qu'il doit faire, c'est de choisir ce qui permet de faire le bien devant Dieu. C'est ça qui doit le motiver. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, voici, je viens en Dieu pour faire ta volonté. Je viens en Dieu pour faire ta volonté. Cette volonté n'était pas facile. C'était le bien, mais c'était le chemin le plus difficile. Il aurait pu dire non. Il a dit oui et il a souffert dans ce chemin-là. Prenons tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui préside à nos choix? Est-ce que nous cherchons par tous les moyens à éviter la souffrance, à faire ce qui est le plus facile, ou est-ce que nous cherchons toujours à faire ce qui est bien devant Dieu? Ce n'est pas la même chose. Faire ce qui est bien devant Dieu demande que l'on réfléchisse, que l'on analyse les choses, que l'on demande des conseils, que l'on s'assure que c'est bien ce qu'il faut faire. C'est ainsi que l'enfant de Dieu doit agir. Prenons tous les domaines de notre vie. Le choix d'une église, par exemple. Ou l'engagement dans une église. Comment est-ce que je m'engage? Est-ce que je cherche à faire ce qui est bien ou est-ce que je cherche à faire ce qui est le plus facile? C'est plus facile de rester chez soi, vous savez. Oui. C'est plus facile de se lever quand on a envie de se lever, d'arriver à l'heure qu'on veut, que de se dire pour Christ. Tant pis, je vais dormir moins. Je vais traverser les transports, je vais faire ceci, mais je vais le faire parce que c'est ça qui est bien. D'accord? L'apôtre Paul dit, je ne me rappelle plus dans quel passage, mais il parle d'Éphèse et il dit, je resterai à Éphèse. Il dit, les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux, mais je vais quand même rester là parce qu'une porte d'un accès grand ouvert m'est offerte. Et il dit, oui, il y a des adversaires, mais il y a une porte ouverte. Le bien, c'est que je prenne la porte ouverte et que je reste pour prêcher l'évangile, même si les adversaires sont nombreux. Et il peut nous arriver à nous de regarder les adversaires, un embouteillage. Mon repos, c'est dimanche, c'est jour de repos, il faut que je me repose. Il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille faire ceci ou cela, n'est-ce pas? Et je choisis ce qui est le plus confortable, le plus facile, plutôt que de choisir ce qui est bien et qui peut-être me fera souffrir ici. Et Pierre dit ici que le chrétien doit toujours faire le choix du bien, même si cela lui fait souffrir. Le choix du bien quand il faudra choisir un conjoint. Le choix du bien quand il faudra choisir un lieu où je vais habiter. Le choix du bien quand il faudra choisir entre un petit mensonge pour bénéficier d'une allocation ou la vérité pour ne pas en bénéficier et souffrir financièrement à cause de ma foi. Parce que ça n'est pas droit, ça n'est pas juste devant Dieu. Parfois, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est un petit truc, je vais mentir là-dessus. Mais c'est pas droit devant Dieu. On le fait par facilité, on le fait parce que c'est plus confortable, on le fait parce qu'on sera plus confortable financièrement. Mais est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est bien? Et c'est ça qui doit toujours nous motiver. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Christ ayant souffert. Votre maître ayant souffert, notre maître ayant souffert dans la chair, nous aussi armons-nous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin qu'il puisse vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps, je ne sais pas quelle longueur il a, qu'il lui reste à vivre dans la chair. Que le Seigneur nous aide à toujours être gouvernés par ce qui est bien. Et la première chose qui est bien, je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas ici, c'est de se tourner vers lui. Ça va coûter, comme on l'a lu, mais il n'y a pas d'alternative à cela. Mais c'est de se tourner vers lui, de venir à lui dans la foi, dans la repentance. Et si on est un enfant de Dieu, le bien, c'est toujours de s'engager davantage dans ce que Dieu nous commande. Toujours. Et nous devons toujours chercher à savoir ce qui est bien. S'armer à la pensée que le bien va nous coûter, mais chercher le bien. Chercher le bien. Et si il arrive que Dieu permette qu'on souffre à cause du choix qu'on aura fait, d'annoncer l'évangile, de vivre d'une certaine manière parce que cela est droit devant Dieu, eh bien, ce sera une indication que nous avons rompu avec le péché et que nous appartenons vraiment à notre Maître, au Seigneur Jésus-Christ. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et nous te prions que tu nous aides à vivre d'une manière conforme à ta vie. Oui, aide-nous à nous détourner de nous-mêmes, Seigneur Dieu, à ne considérer notre vie que par nos envies, que par ce qu'il est naturel de faire, et donne-nous de regarder à toi, de vivre d'une manière qui t'honore. Que nos pensées puissent être armées des mêmes sentiments qui étaient en toi, afin que nous puissions vivre non plus selon la dictature de nos convoitises, mais selon la volonté de notre Père qui est dans les cieux, pour la gloire de ton nom. Amen.